Multimaster, on va arriver jusqu'au Multimaster, en fait. C'est vrai que j'avais fait ça comme ça. On va se guider dans l'application de PostgreSQL jusque là. Puisque c'est son développement actuel. Alors, je me dis sur l'application. Moi, je travaille pour son quadrant. Pas des problèmes techniques avec l'écran, excusez-moi, c'est pas la bonne taille. On va recommencer tout de suite, ça me dérange. Je m'appelle Cédric Dumain, je travaille pour 540, c'est une société de services autour de PostgreSQL, mais qui est assez active en PostgreSQL, dans le développement. Donc là, j'en parle un peu, même si c'est un événement libre, parce que ce dont je vais parler, c'est en grande partie développé par 540, et c'est entièrement le domaine public. Je vous parle, on va arriver jusqu'au Multimaster, donc PostgreSQL, et il faut savoir que le Multimaster en PostgreSQL, il est issu en fait de nombreuses années de développement du moteur pour amener au fur et à mesure toutes les briques qui ont permis justement d'arriver au Multimaster aujourd'hui. Alors actuellement, vous connaissez PostgreSQL tous ou pas du tout Il y en a qui ne connaissent pas du tout PostgreSQL, qui n'ont jamais entendu parler. Non, disons que ce n'est pas monté jusqu'au deuxième étage. Okay. Donc actuellement, on est sur la version 9.4 qui est en rouge, qui va être utilisée là dans les semaines qui arrivent. Et le développement en fait, des options de réplication, ça remonte à la 8.1, sachant qu'il y a une version par an à peu près. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, il y en a une qui n'apparaît pas là. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait au moins 9 versions que petit à petit, au niveau de PostgreSQL, on ajoute des fonctionnalités dont on a besoin. Ça a commencé avec ce qu'on appelle vulgairement le PITR, c'est une technologie qui nous vient du monde oral. Non mais là, je me suis bien. C'est un jeu de mime. Donc voilà, le PITR, c'est Pointer Recovery, c'est en fait les premières options qui nous venaient un peu de MySQL et du Closed Source et d'Oracle en fait, et qui consiste à être capable sur un serveur d'avoir une sauvegarde en continu. C'était le principe, donc c'était les premiers pas, mettre en place d'une part une robustesse des actions et en plus rajouter la capacité de prendre une image de serveur et puis après de rejouer de manière incrémentale dessus tout ce qui s'est passé de façon à pouvoir revenir à un moment donné dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir d'une sauvegarde, on peut remonter et archiver, et on pourra comme ça, même si on a fait un sauvegarde dimanche, si on a tout accumulé, on pourra rejouer jusqu'au lundi, au mardi, au mercredi. C'est comme sur un système de fichiers, en fait, comme un file system avec les journées de file system quand on fait un FSTK au début du démarrage. Donc c'est un peu le principe qui a été implémenté, et ça nous a permis d'implémenter derrière le warm standby, qui est donc la possibilité déjà d'avoir la réplication dans PostgreSQL, puis du PG standby, qui était la possibilité d'avoir une réplication un peu mieux, d'avoir des outils qui nous facilitaient la vie. Puis il a fait du host standby. Le host standby, c'est la réplication avec la possibilité de lire sur le standby, ce qui n'était pas présent au warm standby. Au warm standby, on n'y accède pas en lecture, on est dans la lecture passive. Donc ça ne marchait pas encore. En 9.0, on est devenu vraiment un système avec la réplication qui permettait de faire de la lecture. Déjà, c'était vachement bien. On était très content. En 9.1, on a ajouté la réplication synchrone. C'est-à-dire que dans PostgreSQL, vous pouvez faire la réplication et vous pouvez choisir le niveau de synchronicité de votre réplication pour chacune des transactions. Dans chacune des transactions, vous pouvez dire cette transaction elle est très importante, elle est critique, je veux que ça réplique de manière synchrone. L'autre d'après, non, elle est moins importante, elle sera répliquée de toute manière. Ensuite, on a ajouté le cascading replication, donc c'était la capacité d'avoir un serveur qui répliquait sur un autre, qui répliquait sur un autre, etc. On a rajouté ensuite les event triggers. Alors pour ceux qui connaissent, donc surtout nous connaissons ici, dans les bases de données, depuis tout le temps, on a des triggers sur des inserts, des updates, des delets dans les tables. Donc ça, c'est des triggers qu'on va qualifier de niveau DML, donc c'est sur les modifications des données. Avec les event triggers dans PostgreSQL, on a rajouté la capacité de rajouter des triggers sur la création d'une table, sur le drop d'une table, sur la modification d'une table, d'un index, etc. Donc on a été capable maintenant de coller des triggers à un niveau plus bas, et qui est un niveau dont on va parler après, parce que ça nous bloquait énormément en fin d'application qui ne soit pas physique, mais logique. Je vais aussi expliquer ça après. On a fait du refactoring, et en F4, on a commencé à introduire les premières briques de ce qui nous permet de faire du multimaster, à savoir les replication slots et la réplication logique. Voilà. Liste surveillique. Et donc, voilà de quoi je vous parle aujourd'hui. Réplication synchrone, asynchrone, un petit peu, je vais vous dire à quel endroit synchrone, asynchrone, qu'est-ce que ça change. Réplication physique, et réplication logique, quelle est la différence entre les deux? Vous connaissez déjà ça ou pas? L'implication logique, ça vous parle déjà? Alors j'ai commencé technique, je me suis dit bon ben, on va se mettre un gros truc dessus. Voilà, la réplication physique dans PostgreSQL, c'est ça. Enfin, ça ressemble à ça. Bon. Database, normalement ça marche, on voit ce que c'est une base de données. Dans PostgreSQL, en fait, on a une base de données, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est comme le fichier du système fichier. Et on a ce qu'on appelle les walls, c'est les write read log, donc c'est des journaux de transaction qui nous permettent d'avoir l'historique de ce qui s'est produit, de ce qui a modifié nos données. Ça, c'est des éléments essentiels du PostgreSQL, c'est vraiment le fondement du fonctionnement. Qu'on ait l'application ou pas, on a ça, on a une base de données et on a des journaux de transaction. Et bien, pour mettre en place en fait, de l'application dans PostgreSQL, initialement, ce qu'on a utilisé, c'est qu'on a utilisé un système qui permettait d'avoir une robustesse, une fiabilité des données, et on l'a utilisé pour mettre en place une application. Du coup, on a fait un peu comme ce qu'on pourrait vulgairement appeler l'application LDRDB ou le niveau bloc. On a fait une application qui nous permettait de transmettre directement, non pas les ordres logiques qui avaient été exécutés, j'ai fait un insert dans une table, j'ai fait un test à l'autre. Non, non, on a juste pris les journaux de transaction, c'est-à-dire les modifications physiques des blocs de données. Et donc, on fait circuler comme ça les modifications physiques des blocs de données d'un serveur vers un autre, et comme ça, cet autre serveur peut réappliquer localement la modification physique des données. Donc, on parle de réplication physique parce qu'on a aucune notion de ce qu'on est en train de répliquer. On ne sait pas si on est en train de jouer un insert, un object, un create table ou quoi que ce soit. La réplication physique, du coup, dans PostgreSQL, c'est quelque chose qui permet de faire d'un coup d'un seul une réplication de l'ensemble du cluster de données. Le cluster, c'est toutes les bases de données d'un serveur PostgreSQL. Et donc de faire une réplication agnostique du contenu qui est une des bases, que nos schémas sont modifiés ou pas, etc. Donc on a mis en place cette réplication. Et initialement, on l'a faite avec de l'archivage, puis on l'a fait avec des web senders. Le principe, c'est que là, dans la partie de gauche, on va avoir un serveur dit primaire, parfois on dit master, ça dépend un peu des contextes, et qui va fournir l'ensemble du coup de ces journaux de transaction à un second serveur, qui va du coup pouvoir recevoir cette transaction et le rejouer localement. Et du coup, on a un circuit qu'on voit là, avec les flèches en rouge, qui est particulièrement intéressant pour la partie wall, wall sender, wall receiver, wall, qui est en fait la partie qui va potentiellement être synchrone ou asynchrone. C'est-à-dire que ce qui fait la fiabilité des données dans un moteur de base de données, et ce qui fait qu'on est conforme avec les bases de données racinaires, c'est-à-dire ACID, c'est qu'on va avoir une consistance et une durabilité de nos données, une fiabilité. Lorsqu'on fait un commit dans une base de données qu'on a insérée, au moment où nous on a reçu la réponse du commit comme quoi ça s'était effectué, on s'attend à retrouver cette transaction. Tout ce qu'on a fait, ça doit encore être dans la base. La réflexion qu'on le perde. C'est ça qui fait toute la force de PostgreSQL, une des ressources de PostgreSQL. Et bien du coup, ce qu'on a choisi dans l'application physique, c'est surtout s'assurer que c'était ces transactions qui étaient sauvegardées. Ce n'était pas forcément le rejet des transactions. Donc dans PostgreSQL, et je vous le dis parce que toute l'application qu'on utilise depuis la 9.0, elle est impactée par ça, quand on fait l'application synchrone avec PostgreSQL et ses applications physiques, même quand on est le plus synchrone possible, on n'est jamais que dans l'application synchrone des journaux de transaction. On n'est pas là dans l'application synchrone de l'application des journaux de transaction. Donc ça veut dire qu'on a beau être dans une application synchrone, on pourrait lire des données différentes entre serveur A et serveur B parce que potentiellement le serveur B n'aurait pas encore rejoué les transactions de B. Ok. Ouais. Je ne vous ai pas encore perdu, c'est bon? Ça se passe bien? Si vous avez des questions, comme ce soir, je vais dans un domaine technique ou ça ne me suit pas, ou vous avez des questions, même si elles ont l'air idiotes, en général elles ne le sont pas. Donc n'hésitez surtout pas. Moi, je suis en plein dedans, donc il peut arriver que je l'écoute trop.
Et donc, ouais. Alors, c'est acceptable qu'on puisse avoir des états différents sur le serveur lettre et sauvegarde?
En fait, c'est acceptable dans la mesure où, au niveau du ressenti utilisateur, on va potentiellement, si on se connecte à la même seconde sur deux serveurs, ne pas avoir les mêmes données. Mais c'est acceptable dans la mesure où on garantit que toutes les données, toutes les modifications qui sont sur le premier serveur vont être relevées sur le deuxième serveur. Et on garantit en fait avec l'application physique principalement une pérennité des données, pas une accessibilité aux données. Petite nuance justement dans la disponibilité des données, la disponibilité des services. Donc là on est sur une disponibilité qui nous permet surtout de garantir que même si on perd le serveur A, sur le serveur B on n'aura qu'à attendre un tout petit peu, quelques millisecondes, quelques secondes, et l'intégralité de ce qui manquait aurait été rejoué. En général, le lag de réplication au niveau application des changements est très faible. Il reste dans le domaine des centaines de millisecondes ou des secondes. Donc ça reste quelque chose d'assez cohérent. Mais effectivement, il faut faire cette nuance, l'application synchrone, attention, c'est pas la synchro sur vos jeux. C'est qu'on a différentes options de synchrone disant est-ce que moi, mes données sont tellement pas importantes que même si tu ne m'as pas écrit de manière absolument sûre dans les walls ma transaction, c'est pas grave. Ça veut dire potentiellement au redémarrage, j'accepte d'avoir perdu ma transaction. Ou alors, bien non, moi je veux avoir une culture locale qui soit garantie, donc un ordre synchrone de la liste, de façon à pouvoir retrouver mes données. Ou alors, non, j'ai besoin de réplication, donc je mets en place l'application, comme ça maintenant ça peut aller le côté, mais je m'en fiche si c'est arrivé ou pas. Ou alors, je veux avoir la garantie que le côté ça a été reçu écrit. Ou je veux avoir la garantie que le côté ça a été reçu, écrit et synchronisé. Et actuellement, dans l'application physique, on a ces niveaux-là et on arrive jusqu'à là. On n'arrive pas à avoir dans l'application physique la garantie du rejeu. C'est quelque chose qui est assez dur à intégrer au niveau de l'application physique et que du coup, on applique par ailleurs, enfin, d'autres technos. Donc, globalement, pour rester un petit peu encore sur ce domaine-là, la réplication physique, c'est donc le rejeu des jeux de traction. Ça veut dire que ben, si jamais on coupe le lien entre le serveur de gauche et le serveur de droite, eh bien, il y a bien un côté où il va falloir accumuler ces jeux de traction, sinon quand on va se reconnecter, on va perdre, on aura potentiellement été déconnecté dans tellement de temps, on aura perdu le fil, on ne pourra plus rejouer de traction. Peut-être qu'il nous manquera des traction. Donc on est obligé de les conserver. Et jusqu'à présent, on a donc différentes technologies qui permettent d'archiver les fichiers, donc de pouvoir rejouer depuis les fichiers de traction, en direct ou en passant par un protocole de streaming, ou en streamant directement notre action, et on va le voir après cette nouveau DL 2.4, maintenant on a rajouté une autre option qui permet d'avoir un slot de réplication, et donc un slot d'émission de changement, et donc c'est le moteur qui se rappelle quel consommateur de transaction s'est arrêté à quel moment, et donc il est capable de redistribuer toute transaction à tous les consommateurs. Donc voilà, finalement du coup, on a rajouté. Bonjour! Donc dans l'application physique, on avait historiquement du coup cette application par fichier, au début avec Laurent Standby, puis par streaming, en même temps qu'on a activé streaming, on a pu du coup appliquer la lecture seule, et maintenant avec Physical Slot qui permet de dire j'ai pas besoin de me préoccuper de combien de jours de traction il faut que je conserve, ou de me préoccuper de est-ce que mes journaux ont bien été transmis, ou est-ce que mon tout ce qu'il fallait des fois mettre en place au niveau admin machine pour pouvoir s'assurer que la réplication se passait bien. Même si c'est assez robuste, ça donnait des couches de contrôle en plus. Maintenant, avec la réplication slot, le serveur SQL va lui permettre de créer un slot de réplication qui va destiner à un consommateur spécifique et il va garder l'historique de tous les autres actions dont il a besoin pour chaque slot. Comme ça, on a une garantie que jamais on sera désynchro. Potentiellement, si on est en coupure de action, en coupure de réplication pendant très 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 longtemps, on va peut-être accumuler trop de choses côté primaire et on va être amené à se dire bon, là, mon secondaire, ça fait longtemps qu'il est dans les choux. Je vais tout couper et j'annule et je supprime mon slot de réplication. Parce que normalement, quand même, ça va créer un volume supplémentaire. Donc, on a quand même cette gestion à faire. Avoir une application qui a l'arrêt, c'est pas intéressant, donc il faut quand même contrôler qu'elle n'est pas arrêtée pendant des jours ou deux jours. Mais ça pose pas de soucis. Alors, donc, ce qu'on a changé avec un 9.4, c'est qu'on a, du coup, essayé de repenser ça en termes de réplication logique, parce que notre souhait, en fait, je parle de 2 secondes par an, mais c'était le souhait aussi de l'OpenSQL depuis plusieurs années, c'est d'avoir des multimasters. Et des expériences de multimasters, il y en a plein qui ont été tentées, soit sur parfois du chain aussi, mais en général avec un partage SAN ou un partage de segments de mémoire qu'on s'exporte, où il y a toujours un mécanisme comme ça d'interverrouillage entre les systèmes. Et au final, tous les systèmes, qui soient open source ou closed source, qui vont fonctionner là-dessus, pêchent toujours. C'est-à-dire qu'ils permettent tous d'offrir une disponibilité de service, mais rarement des performances associées. Donc finalement, les systèmes multi-master actuellement, enfin, jusqu'à présent, ont plutôt tendance à être intéressants au niveau de service et pas intéressants au niveau de performance. Nous, on voulait essayer d'avoir les deux. Et surtout, on avait des acteurs publics et des acteurs privés qui étaient intéressés par ça, donc on a bénéficié d'énormément de subventions pour pouvoir développer ça. Accessoirement, pas vraiment de la France, mais ça bouge en ce moment. Et donc, on est parti plutôt sur une logique, sur une réplication dite logique. La réplication dite logique, c'est l'application que vous connaissez peut-être, qui est historiquement faite par trigger, c'est-à-dire qu'on mettait des triggers sur des tables. Si j'ai un instant sur cette table, je le mets dans une file d'attente ou dans un fichier ou quelque part, et comme ça, je vais rencontrer ce fichier ou cette file d'attente et je vais pouvoir rejouer sur un autre serveur. Donc je vais rejouer les ordres logiques tels qu'ils sont passés. En fait, même pas les ordres logiques, mais les modifications au niveau logique des données. Donc je vais être conscient que j'ai eu des updates, des inserts, des deletes, et c'est ça que je rejoue. Donc potentiellement, on avait historiquement un logiciel qui s'appelle Sloney, qui était développé par Affilias, donc c'est un registrar américain, qui a été le premier dans cette lignée. On a eu ensuite Longis, qui est un système très proche de Sloney, mais qui a été développé là par Skype, et qui correspondait aux mêmes problématiques de réplication logique, mais qui se voulait être plus souple, en particulier beaucoup plus souple sur les modifications de schéma, parce que les grands problèmes d'attente, ben, c'était que dès qu'on créait une table, dès qu'on ajoutait ou qu'on supprimait une colonne, et ben, les systèmes tels que Sloney, c'était un peu dur, et il fallait prendre des précautions et des gants quand on voulait faire ces modifications. Donc, au niveau applicatif, on avait un ressenti qui était assez fort, un impact assez bon. Longis était beaucoup plus souple là-dessus, donc déjà c'était vachement bien. Avec Longis, pour rien vous cacher, on pouvait déjà commencer à faire du multi-master. avec Sony un petit peu aussi. Parce qu'on va voir qu'avec les notions multimaster, finalement, on parle de notions de serveurs sur lesquels on peut écrire, et ils ne sont pas forcément tous les deux entièrement ISO. C'est pas forcément une application 1-1. Des fois, on a des applications qui sont différentes. Donc, on avait ces deux systèmes-là, puis on a eu Cardo, qui est un système orienté vraiment multimaster, qui a permis de remplir ça. Enfin, son office un petit peu, mais bon, personnellement, je n'ai jamais trop utilisé. Et le retour dessus n'est pas non plus forcément génial, tant au niveau des performances qu'au niveau de la gestion des conflits. Mais dans les trois cas, on était sur l'application logique, coûteuse parce qu'elle était prégnante au niveau applicatif, parce qu'il fallait la prendre en compte dans sa mise en production, parce qu'on ne pouvait pas se permettre comme ça de le mettre en œuvre, c'est-à-dire super, ça y est, ça marche, je peux travailler. Donc, on a essayé de simplifier ça. Alors, on a essayé de simplifier ça à travers les éléments trigger, donc sur la process 9.3, qui ont permis de commencer à pouvoir catcher des modifications au niveau du schéma, donc des créations de tables, des modifications de tables, des types de données, tout ce qui s'ensuit. C'est quelque chose qui n'est pas entièrement intégré. On a intégré tout ce qu'on a pu, au moins l'API de base, et au fur et à mesure, on rajoute la possibilité de faire des triggers sur de plus en plus d'événements dans la base de données. Voilà, donc c'est. On a mis les premières briques et c'est itératif, c'est-à-dire. Et donc, on a rajouté, du coup, en 9.4, en même temps qu'on a rajouté les replication slots au niveau physique, on a utilisé en fait la même démarche qui était de dire, bah, maintenant on peut créer des slots de réplication physique pour une réplication binaire ou dite physique, et on peut créer des slots de réplication logique. Et donc maintenant on peut créer, dans votre SQL 9.4, vous pouvez créer un application slot logical à partir du moment où vous lui fournissez un nom qui est unique et un plugin. Donc le plugin il n'est pas fourni par PostSQL, il y a une API et vous pouvez développer vous votre propre plugin, celui que vous voulez, qui va permettre d'appréhender les modifications telles qu'elles sont transmises par les transactions et transformer ça dans la forme qui vous intéresse à vous. Donc il y a des exemples fournis pour SQL pour faire juste un petit historique de ce qui se passe, mais du coup on a déjà des plugins qui commencent à apparaître pour faire de la gestion de réplication, ce qu'on va voir ici, mais aussi de la gestion pour juste archiver sous format fichier les formats SQL, parce qu'en fait avec l'apparition des slots de réplication logique, on a la capacité de décompiler les jeux de traction pour retrouver les ordres SQL qui ont probablement créé ces modifications. Chose qui était absolument impossible auparavant. Auparavant, avec le champ de traction, pour une modification que physique, c'était très dur de garantir qu'on pouvait cacher toutes les modifications au niveau logique. On a rajouté tout ce qu'il nous fallait pour qu'on puisse le faire. Voilà. Donc, vous pouvez trouver sur le net, il y a 2-3 outils du type Decoder RAW et RAW Receiver, qui sont vraiment des petits plugins juste pour illustrer les fonctionnalités, qui permettent justement de faire une petite réplication logique d'un processus 9.4 à un autre processus 9.4, mais attention, que pour le développement, pas pour la production, ce n'est pas des plugins qui sont prêts pour la production, ils sont pas assez complets. Pour l'application, on a développé un plugin qui s'appelle UDR, on a développé UDR et VDR, donc Unit Directional Replication et Bidirectional Replication. C'est en fait la BDR, donc l'acronyme c'est BDR, c'est celui qu'on utilise le plus, qui rassemble UDR et VDR. C'est un système de réplication, c'est un plugin, mais qui contient aussi en fait une partie des modifications qu'on a dû faire dans PostSQL. Ce qui se passe, c'est que là, c'est un projet de développement qui a démarré déjà il y a 2 ans, au niveau du multimaster, qui est déjà en production chez certaines personnes, mais on n'a pas réussi à intégrer dans les temps, dans PostSQL, tout ce qu'on avait développé en parallèle. Parce que l'intégration dans PostSQL, c'est un projet assez important, PostSQL, avec, c'est pas qu'il y a du tri à l'entrée, mais il y a un volume de gens qui travaillent dessus qui est quand même relativement limité, et du coup, ça limite la capacité de review, et de validation du code et de tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est pas qu'il y a une réfraction, mais PostSQL a tendance à avancer un peu moins vite et s'assurer que c'est bien posé, que c'est bien consolidé. Donc, on a consolidé aussi par couche, on essaie de rester dans un domaine un peu à la Unix, on a redécoupé en petits groupes nos développements, et donc ça nous a permis de commencer à faire ça en 9.4. Et le souhait étant que UDR reste entièrement externalisé à PostSQL, donc potentiellement sans patch, et BDR, les quelques patchs qui restent, sont vraiment intégrés dans les 2 prochaines versions de PostSQL. On estime qu'on en a encore pour 2 ans d'intégration. Sachant que tout ça, c'est déjà disponible en open source parce que les dépôts sont publics. Et donc voilà ce qu'on a fait. Alors, j'ai fait un petit schéma après, un peu plus simple. Du coup, pour augmenter maintenant la chaîne de réplication logique, du coup, qui va être le support de l'application multimaster qu'on va voir après. La réplication, du coup, logique, s'appuie sur ces slots de réplication. Ça veut dire que maintenant, on n'a plus la possibilité de récupérer notre action dans un fichier. C'est vraiment un serveur secondaire qu'on va instancier et qui va récupérer des flux de transactions, en fait des flux d'informations localement. Donc on va avoir encore une fois l'équivalent d'un wall sender, en fait c'est un replication slot, qui va accumuler toutes les informations que le plugin que vous avez écrit a pu générer à partir des jeux de transactions. Il l'accumule et lorsque du côté droit on se connecte, on récupère des informations qui s'intéressent et donc potentiellement on peut les appliquer localement. Ce que ça nous a permis de faire du coup déjà tout de suite dans ce modèle-là, c'est d'avoir enfin la possibilité d'avoir une application synchrone appliquée. C'est-à-dire que là maintenant, on est capable, sur le sujet du flash rouge, de dire maintenant en utilisant l'application logique, je peux m'assurer que l'ordre initial que je viens de faire, il a été répliqué et appliqué de manière synchrone sur l'ensemble des serveurs. Dans le dessin avec une seule machine, potentiellement, je peux en avoir d'autres. Alors habituellement sur l'application synchrone, on met que une ou deux machines. Nous avons un bout de deux machines et puis c'est tout, parce que c'est très coûteux l'application synchrone, ça prend des verrouillages quand même globalement bloquants. Et donc on a offert la possibilité là aussi de le faire de manière transactionnelle, c'est-à-dire dire cette transaction est importante, je la veux partout de répliquer de manière synchrone, celle-ci est moins, si c'est une transaction de type session web, c'est pas grave si elle n'est pas répliquée en outil. Donc là on a enfin pu faire ce système-là et donc on a côté apply en fait un plugin qui va être capable lui de lire les modifications qu'on lui a préparées et de les rejouer localement. Là dans ce cas-là, je n'ai même pas mis le PostgreSQL parce que potentiellement c'est ce qui me permet de rejouer des flux de transactions de PostgreSQL dans un autre système de base de données, dans un fichier. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, si vous voulez faire l'application PostgreSQL Oracle, PostgreSQL MySQL, PostgreSQL Firebird ou je ne sais quoi, ce que vous avez envie, rien n'empêche. Sachant qu'à chaque fois, on est sur des petites briques et que du coup, on a essayé de mettre en œuvre des API qui sont en général assez simples. Il y a deux, trois fonctions, une fonction d'entrée, une fonction de sortie, une fonction de modification des données. Et ça me suffit, donc à chaque fois, des API de 3 à 4 items pour gérer chacune des couches. Donc, c'est pas très compliqué, pour partir du monde des développeurs, de faire des plugins. Donc, d'utiliser les mécanismes. Dans ce cas-là, on est sur ce qu'on appelle un petit peu l'UDR. Nous, la finalité, c'était ça, nous avons de faire VDR, donc la Bidirectional Replication. Et du coup, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ben, l'ensemble des autres acteurs qui avaient essayé de faire de l'application bidirectionnelle, enfin multimaster, synchrone ou asynchrone entre plusieurs machines, on a toujours constaté les mêmes soucis et qui sont toujours liés à l'omniprésence de l'idée des années 90, que si j'écris un endroit, ça va être écrit partout, tout doit marcher super bien, très vite, sans souci. Bon, en réalité, ça ne marche pas comme ça. Il y a forcément un problème quelque part. Nous, on a choisi du coup de dire, ben voilà, on sait que l'application multimaster, ça pose des soucis de performance. On va faire en sorte qu'on ait un système qui soit léger, voire même qui soit plus léger que l'application intégrée PostgreSQL, si on peut, et qui nous permet du coup d'être dans une application asynchrone qui soit quand même assez efficace, avec une gestion de résolution de conflits, et en même temps, on offre une application synchrone quand on le souhaite. Du coup, on sait que par moment, on va ralentir le système avec une application synchrone, mais le résultat, on ne le fait pas. Donc on a mis en place la BDR qui du coup bah, consiste à dire à partir du moment où j'ai pu écrire depuis un serveur A vers un serveur B à partir de mon rejet d'opération logique, je peux faire la même chose depuis mon serveur B vers mon serveur A. Car un grand changement dans l'application logique par rapport à l'application physique dans PostgreSQL, c'est que tant qu'on était dans le rejet de transaction binaire, physique, on n'avait pas capacité à dire oui mais moi si mon serveur secondaire, j'aimerais bien avoir un index en plus ou j'aimerais bien créer une table en plus, on ne peut pas écrire dedans. Donc on ne pouvait rien faire, on pouvait juste rejouer ce qui se passait. Avec l'application logique, on a la capacité d'agir localement. On était du coup capable de dire, bah tiens, en fait, je reçois un flux de réplication, je le rejoue, mais si moi, dans ma table, je veux des index en plus, je peux. Si moi, localement, à partir de mes données, je veux faire d'autres traitements et faire autre chose, je peux aussi. Donc c'est là où on a commencé à dire, on est déjà dans une politique master-master, puisque même si on ne va pas forcément chercher à croiser les données des deux, on peut de toute façon écrire des deux côtés. C'était déjà un énorme gain. Avec la BDR, on peut écrire des deux côtés, on peut répliquer l'ensemble des événements. Actuellement, pour la 9.4, ça nécessite un patch de PostgreSQL, pour quelques petites raisons, principalement parce que tout ce qui est event trigger, c'est plus abouti au niveau développement de ce qu'on a fait par rapport à ce qui a été comité, et donc on s'est déjà joué avec BDR, on s'est déjà caché tous les create tables et toutes les modifications de schéma, ce qui veut dire qu'actuellement, on peut utiliser BDR et juste d'avoir configuré au niveau de la configuration du serveur, et après, c'est naturellement mis en œuvre sans que vous ayez besoin de dire je veux répliquer cette table ou telle autre. Toutes celles qui sont créées sont appliquées naturellement et tout se fait très très bien. Donc voilà un peu le mécanisme qui a été en contre-vue. Alors, un point qui était donc très important pour nous, c'était les performances. Alors, bon, les tests sont des tests pratiquement limités, même s'ils sont quand même déjà assez visuellement importants. Là, c'est du PGBench. PGBench, c'est un outil qui est fourni avec PostgreSQL pour le faire des tests de performance ou de contrôle des performances, peut-être. Il y a des fois juste pour valider les performances d'une machine, d'un serveur ou d'une configuration. Et donc, on l'a utilisé pour générer du coup de l'activité sur le serveur dans les différents cadres d'utilisation de la réplication dans PostgreSQL. Le standby, c'est la réplication d'un puits primaire vers un secondaire, ou sur mon secondaire, je peux avoir un accès en lecture seul. Et donc là, on arrive au bon test, là, il y a des chiffres, on a 14 000 transactions par seconde. On a fait le test avec UDR, donc UDR, je laisse replier depuis mon serveur A vers mon serveur B, mais avec la couche logique. On a obtenu des performances quasiment équivalentes, et on a fait la même chose avec BDR, c'est-à-dire là, je peux écrire de deux côtés, je replie de deux côtés, on a des performances quasiment équivalentes. Donc on a vraiment un overhead qui était très très faible. Alors, tout de suite, là, c'est vachement en notre faveur, il peut y avoir d'autres façons de vérifier les performances, de qualifier les performances, qui vont être moins favorables. Parce qu'effectivement, on a fait d'autres tests, on essaie de maintenir un temps de lag de réplication qui sont inférieurs à tant de millisecondes, tant de secondes, et donc ça impacte sur nos transactions qui sont faites à ce moment-là, et c'est pas tout le temps si favorable. Des fois, en UDR ou en BDR, on a quand même un peu moins de transactions qu'en standby. Mais globalement, c'est pas le cas, grâce à ce qu'on va voir juste après. Et d'autre part, c'est qu'on avait un autre problème avec l'application, c'est l'application logique à comparer avec Node 3 et Sony. Et alors là, il n'y a pas photo, on est beaucoup plus rapide. Dans tous les cas d'utilisation, on est deux fois plus rapide que Node 10 et Sony 3, que Node 3 et Sony dans l'application logique. D'une part dans l'application, mais en plus dans la mise en place initiale de l'application. Parce que auparavant, quand on faisait l'application logique avec Sony, Node 10, etc., il y avait ce qu'on appelle une période de catch-up, c'est-à-dire je mets en place ma application, mais bon, j'avais déjà 300 gigas de données.
Juste pour savoir, les deux que vous citez, c'est quoi en fait? Parce que jusqu'à Lyon, mais.
Lyon 10.3 et Sony?
Ouais.
C'est des systèmes de réplication logique par trigger. Donc on est obligé de poser des triggers sur les tables. Lyon 10, c'est via un mécanisme de push-pull dans des systèmes de latence synchrone qui sont assez bien efficaces. Et Sony, c'est un système de listen notify. Parce qu'en PostgreSQL, il y a des gestions de notifications sur les channels et c'est difficile.
En fait, c'est l'existant qui était
à. Oui. Oui, pardon, oui. Ça c'est l'existant historique. Sony, ça existe depuis 15 ans. Lyon 10, ça doit avoir 8 ans, quelque chose comme ça. Et BDR, ça a moins de 30 ans. Pardon, ça existe. C'est public, là, officiellement, depuis mai ou quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, au niveau du nombre de transactions par seconde, on a vraiment explosé les deux autres là-dessus. Donc on sait que notre application logique est performante UDR et BDR. Ce qui était vraiment un gros sommet. Alors, la grande différence qu'on va avoir maintenant entre standby UDR et BDR, c'est là. C'est qu'on a un autre problématique aussi à gérer, c'est le volume de transactions. Là, c'est les journaux web qui sont présentés, donc en fait, autant ici. Pardon. Autant ici, plus c'était haut, plus c'était bien. Là, c'est le contraire, plus c'est bas, mieux c'est. Là, c'est le volume de journaux de transactions qui sont générés par chacun des systèmes de réplication. Donc en gros, si je fais du standby, quel est mon overhead de réplication? De l'IDR, du BDR, du Node 3, du Sony. Alors, au niveau de Node 3 et Sony, effectivement, on est sur une couche applicative, on a mis les triggers dans notre schéma de base de données, et du coup, ça se sent parce que comme on rajoute dans des files d'attente ou dans des systèmes de tunnel, on l'a dans les journaux de transactions, et donc on a un vrai overhead au niveau du serveur qui fournit les données. C'est vraiment très conséquent. Au niveau du secondaire, au niveau du stack, il n'y a pas vraiment d'impact parce que dans la mesure où lui n'est pas en train de lui-même répliquer, il n'y a pas besoin d'accumuler plus de notifications que ça. Ceci étant, pour ce tableau, une petite erreur de test, c'est qu'il se trouve que sur les slaves, pour Longlist et Sloney, on avait laissé le wall archive à minimal, c'est-à-dire qu'on avait considéré qu'on avait besoin de des archives minimales, alors que dans les autres cas, on a utilisé un niveau d'archive qui était plus important.
Est-ce que pour vous, l'UDR et BDR, c'est plus master slave, c'est master user?
Pardon? Pourquoi est-ce que quoi?
Est-ce que c'est toujours master slave? Est-ce que c'est devenu master?
Master-master avec une petite nuance, enfin une nuance à prendre en compte. On est sur l'application logique entre deux serveurs. On sait qu'on va avoir des cas de réplication qui ne vont pas fonctionner. On va probablement provoquer des choses qui ne fonctionneront pas. Il est très dur à l'heure actuelle d'avoir une application qui va utiliser le système multi-master sans en être consciente. C'est-à-dire que, on va le voir juste après, l'utilisation de l'application multi-master, ce n'est pas de deux machines code à code. C'est plus sur la gestion de plusieurs data centers ou la répartition qui en fait nous permet d'avoir d'autres intérêts. Je vais venir dessus, ça devrait répondre. Mais là en tout cas c'est déjà multi-master. Un point important, sur UDR on a un niveau de journaux de transaction côté slave qui est important là aussi parce qu'il y a tout le rejeu qui est fait. Et il est plus important que dans la BDR, alors c'est la même chose qui est jouée. Parce qu'en fait, dans l'UDR, on n'a pas patché PostgreSQL, donc on a gardé le système de journalisation des transactions qui était déjà en œuvre dans 9.4. Alors que pour BDR, on a optimisé certaines informations au niveau des genres de traction, et ça nous permet d'avoir des process beaucoup plus légers. Et au final, du coup, en BDR, on est très performant et on a réussi à réduire le volume de traction généré. Donc on retrouve un volume sensiblement égal à celui qu'on a avec des dos on by. Donc on a un arrêt qui est très faible là aussi, et donc on est assez bon. Ça, normalement, ce patch-là, c'est quelque chose qui devrait arriver sur 9.5, donc on aura déjà des impacts l'année prochaine. Voilà, alors ça c'était pour parler vraiment technique, maintenant je vais parler un peu plus architecture et du coup comment ça s'intègre dans PostgreSQL, tout ça, enfin comment ça s'utilise. Donc pour revenir à l'historique, là on est au niveau de la 8.2.8.3, on a mis en place du warm standby, c'est ça. On a un serveur primaire, un serveur standby, on est sur l'actif passif, notre passif on ne peut pas s'en servir. On met un log pour avoir une haute disponibilité des données et potentiellement du service aussi. Mais avec, disons, une fenêtre de base qui soit relativement faible, c'était les premiers départs là-dessus. Dans ce système-là, on ne sert que du primaire, on ne sert pas de second, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un serveur de secours. Donc ça, historiquement, dans les architectures de réplication, c'est assez connu. C'était vraiment la première brique à ajouter, qui s'utilise encore, hein, parce que dans les politiques de haute disponibilité, on a rarement que deux serveurs, on a souvent deux serveurs plus un disaster recovery. Donc c'est en général un serveur qui est lui vraiment en stand-by, qui est vraiment passif, et qui permet dans le cas où on a perdu les machines, ben, de quand même avoir encore quelque chose pour travailler. Donc c'est une techno qui s'utilise encore, mais très rapidement, on essaie de faire en sorte qu'on puisse s'en servir, parce que c'était quand même nettement mieux. Ça comportait d'énormes avantages. D'une part, on n'avait pas une machine qui servait à rien, on avait une machine qu'on pouvait utiliser. Potentiellement même, on pouvait faire du 2 tiers à 1 tiers, c'est-à-dire se dire, je vais essayer de faire une répartition de charge sur mes deux machines, de façon à ce que, d'une part, ça aille mieux peut-être sur ma machine principale éventuellement, mais aussi et surtout qu'en cas de coupure du primaire, je puisse basculer sur mon deuxième serveur avec un coût de départ initial plus faible. Parce que démarrer un serveur ou démarrer un service qui est froid, qui n'a pas encore reçu l'activité, il n'a pas encore de cache, il a plein de choses qu'il n'a pas, et donc au démarrage, ben, c'est un peu comme les gars, c'est un peu long à partir. Le fait d'avoir des standby avec la lecture dessus, ça me permettait de commencer à avoir un système où, côté secondaire, on chargeait des données, on avait de l'activité dessus, donc on sait qu'en cas de bascule, on a des performances qui sont rapidement de bon niveau. On n'est pas du tout dans les mêmes lenteurs que ce qu'on avait initialement. Donc c'était déjà, je me dis, on était là, on va plus content, on avait réussi à pouvoir lire des deux côtés un processus qu'à l'époque, c'était pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans. Bon, on se faisait un peu taper de. Mais un petit peu des comparaisons de ces deux bases de données en disant ouais, parce qu'il n'y a pas d'application. Voilà, donc on avait solutionné ça et ça marchait, c'était très efficace, donc très content. Bon, du coup, comme pour en mettre un, on peut en mettre plusieurs. Donc dans PostgreSQL, vous pouvez mettre un ou plusieurs serveurs comme ça en sommeil. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, l'impact est minuscule. Si vous êtes en train de faire l'application par fichier, il n'y a quasiment pas d'impact pour le primaire parce que lui, il se contente d'envoyer des fichiers. Si vous êtes en réplication par streaming ou en réplication slot, là vous avez un impact un petit peu parce que vous avez plein de clients qui sont connectés par la même couche que la couche standard, c'est-à-dire par la couche SQL. Donc au niveau réseau, on n'a pas de problématique, on se connecte sur le même port que d'habitude avec l'utilisateur de base de données et tout comme si on était sur une connexion SQL standard. Donc c'est simple à gérer. Et donc on peut en créer autant qu'on veut et avoir une réplication comme ça et offrir 5, 10, 20 serveurs secondaires pour pouvoir fournir plus de services en lecture. Donc ça permet de répondre à pas mal de problématiques, entre autres en web, hein, mais aussi dans d'autres domaines, où on avait des très fortes charges de lecture, et donc ça permettait de gérer ça facilement. Là, encore une fois, on est dans la réplication physique. J'ai essayé de représenter la réplication physique avec des steps de rectangle. Bon. Après, on a acheté les cascades, voilà, c'est une architecture intéressante. Là, on pouvait commencer à envisager d'avoir des serveurs secondaires qui eux-mêmes pouvaient transmettre le flux de réplication. Pour nous, ça devenait très intéressant parce que ça nous permettait enfin d'avoir une stratégie sur plusieurs data centers. De se dire, ben maintenant, j'ai une réplication de mon data center A à mon data center B. Si jamais je perds le A, je peux passer circuler sur le B. Et le B a déjà toute une grappe de serveurs à lui. Et donc, je sais que j'aurai plus de facilité à recevoir tous mes clients. D'autant que toute la réplication sur une graphe se fait au niveau de ce data center. Si jamais j'avais dû mettre tous mes stand-by à plat devant moi, ben potentiellement depuis mon data center A vers mon data center B, j'aurais eu plein de flux de traction, tous les mêmes, et ça m'aurait coûté globalement cher, moins de réseau et en temps, alors que finalement, si j'avais un point d'entrée, ça facilitait le boulot. Donc c'était le souhait. Donc là aussi, on a étendu la capacité en lecture considérablement, et la capacité de haut listement. Parce que là, clairement, au niveau des bascules intersites, c'est devenu quelque chose de trivial à faire. Au niveau de PostgreSQL, ça n'implique pas de faire un restart du serveur, c'est-à-dire qu'on peut faire une bascule à chaud, on dit juste au serveur secondaire, tiens maintenant t'es primaire, et hop, ça y est, il devient primaire. Dans le bien de secondes qui suit, c'est fait. Donc, très efficace. Au niveau de l'application multimaster, du coup, avec UDR, on va dans ce genre d'architecture où on a ce qu'on va appeler un upstream master, donc un primaire d'origine, on va dire, et un primaire peut-être secondaire, donc downstream master. L'intérêt sur deux machines n'est pas forcément très flagrant, mais bon, globalement, c'est pour se dire, j'ai une base peut-être de production, mettons de l'OLTP ou je ne sais quoi, je peux la répliquer de manière logique sur mon serveur downstream, et sur mon serveur downstream, je vais peut-être faire de l'analyse statistique, ou peut-être que je vais faire des traitements spécifiques par cron ou je ne sais quoi. Bah, toutes ces choses, plutôt que de les faire sur ma base de production qui est très active, je le fais sur ma seconde machine. Et en plus, je reçois les données au fil de l'eau et je peux les faire localement, donc ça permet de faire pas mal de traitements très intéressants. On n'est pas sur l'application croisée, on n'est pas sur le cas où je perds mon serveur upstream, je peux travailler sur mon downstream, c'est pas forcément vrai. Si je perds mon downstream, dans mon upstream, j'ai rien. Je ne sais pas ce que le downstream a fait, donc vraiment, c'est que dans un seul sens, mais ça permet de fluidifier les traitements. C'est-à-dire que. Bon, ici on est sur le catégorie de libre, comme vous êtes au courant de libre, c'est bien. Dans l'industrie, dans pas mal de secteurs, il y a beaucoup d'utilisation du cloud source. Le cloud source, c'est du coût de licence, c'est cher, ça veut dire qu'on se bride sur des possibilités d'architecture et d'optimisation de fonctionnement et de répartition des charges et d'outillage. Alors que dans l'open source, avec PostgreSQL par exemple, on n'a pas de coût de licence, donc on a le droit comme ça de se dire, ben, en fait, moi, plutôt d'avoir un gros serveur monstrueux qui va tout me faire, je vais en mettre plusieurs et distribuer mes services et ma charge en fonction de mes machines. De la meilleure façon qui sera. Et souvent, du coup, j'ai des architectures qui sont plus complexes au niveau de serveur, mais qui sont plus efficaces parce que bah, les traitements, quand ils sont du même type sur une même machine, c'est plus performant que si on mélange plein de traitements de nature différente. L'autre truc que ça permet, c'est de faire ça. Donc là, j'en ai mis deux, mais on peut en mettre l'un. Ce qu'on appelle des réseaux, on va passer une application centralisée. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans des systèmes avec différentes agences, alors c'est en France ou dans le monde. On a plein d'agences, chaque agence localement elle travaille, elle fait des choses, mais on a quand même un centre d'agrégation de cette information pour consolider l'information qu'on a dans chacune de nos agences par exemple, pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas tous les traitements que les gens font, mais avec l'ensemble des données consolidées. Donc ça permet d'avoir là aussi des gens qui chacun dans leur agence vont pouvoir travailler, même si jamais dans sa base de données centrale elle est tombée, ça ne va pas les bloquer, et la base de données centrale, quand elle peut travailler sans aller perturber les agences. Donc on a, je parle d'agence et de données centrales parce que finalement là ça peut être vraiment dans beaucoup beaucoup de domaines différents. Inclus les sites web à nouveau d'ailleurs. Alors après là où ça devient rigolo, c'est que ben, on peut mixer tout ça. Alors on a le droit de faire un serveur primaire, réplication physique, son petit carré, qui fait des réplications physiques vers des serveurs standby, qui sont là en standby ou en standby, à votre choix, en cascade éventuellement. Et qui potentiellement vont assurer du coup la fiabilité du système, c'est-à-dire si je perds mon serveur primaire, je peux basculer sur un de mes serveurs standby, ils contiennent ce que contient mon primaire, globalement, au niveau physique, sans que j'ai besoin de faire un truc. Mais là-dedans, eh ben, mon serveur standby, en fait, celui-là, j'ai mis un petit ellipse comme ça, parce que lui, finalement, j'ai pu lui configurer une réplication logique. Et du coup, je vais pouvoir avoir cette réplication qui est à l'origine physique, rejouer sur un serveur secondaire, et de ce serveur secondaire, redistribuer les écritures sur plusieurs autres serveurs qui vont être eux des serveurs master, sur lesquels je vais pouvoir écrire. Donc là aussi, l'intérêt, c'était encore une fois de réussir à avoir au niveau réseau, au niveau proximité des données, au niveau modification des données, quelque chose de plus facile à manipuler. Là, ça me permet effectivement, ben après, d'aller distribuer par grade de service. Par exemple, peut-être avoir un serveur qui va être orienté data mining, peut-être avoir un autre serveur qui est orienté traitement, webmail ou tâche de fond. Un troisième pour je ne sais quoi. Donc on a comme ça la possibilité maintenant avec PostgreSQL quasiment que. Enfin, là, dans un an que les outils fournis pour PostgreSQL, actuellement vous êtes peut-être patché ou d'acheter une extension, mais c'est pas très compliqué. Vous êtes capable, on est capable maintenant d'avoir cette mixité de réplication physique, logique, avec du coup plusieurs masters, sachant que là-dedans, c'est les mêmes paramètres et les mêmes options pour activer le côté synchrone ou asynchrone. Donc dans tout cet ensemble-là, en plus. Je peux dire pour chaque interaction si elle est répliquée de manière synchrone ou asynchrone. Donc on a regardé, on a essayé d'associer les deux systèmes et on est jusque.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est la réplication physique, c'est le changement des blocs. Donc je vois bien comment on peut le faire en cascade. Par contre, je vois pas comment le standby en ellipse, alors qu'il a reçu une modification physique, il est capable de faire une réplication logique sur les autres. Comment il déduit d'un changement de bloc l'ordre DML qui est passé au-dessus?
Alors, ça tient un point, c'est une très bonne question, parce que effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas assez appuyé. C'est que, initialement, l'application physique passait vraiment par un fichier ou un système de streaming, mais qui était vraiment, on va dire, assez plus intelligent sur qui c'est qui consultait les données. Là, maintenant, en ayant ajouté les replication slots, on a rajouté la notion de je crée un slot de réplication, physique ou logique. Et ce slot de réplication aussi, il est physique, on sait déjà quel type de receveur on va avoir, c'est un receveur physique, donc il n'y a pas de sommité. Mais si jamais c'est une couche logique, je vais pouvoir définir quel plugin qui va se connecter et mâcher et transformer mes données. Mais du coup, au niveau de ce standby, en réalité, il reçoit lui un flux de jeux d'automation physique et wall. Et au niveau du standby, je vais pouvoir en fait me servir de standby pour analyser ce jeu d'automation qui arrive avec mon plugin et alimenter mon slot de réplication logique que j'ai localement. Mais c'est mon plugin en fait qui va lire mes walls qui arrivent au fur et à mesure qu'ils sont appliqués.
Les walls fait le chemin inverse de la base de données, c'est-à-dire qu'à partir du journal de changement, il redéduit l'ordre des modifications.
Oui. Alors, l'ordre, il redéduit pas vraiment, je pense, c'est assez sérialisé. Par contre, il déduit effectivement.
Non, l'ordre, pas au sens séquence, mais au sens de la requête.
Voilà, globalement, au niveau physique, ce qui se passe, c'est que dans PostgreSQL, on a des blocs. Dans les blocs de données, on va avoir un état des matières et puis plein de lignes. Et on va constater au niveau physique, tel bloc, tel offset, je change de là à là et je mets tel morceau binaire à la place. Là, c'est ce qu'on a rajouté du coup avec la réplication logique, c'est qu'on a rajouté dans la configuration de PostgreSQL, on a un paramètre, le wall level, qui va dire dans mes walls, je veux pas grand chose, juste si mon service crash, quand il redémarre, il faut que ça marche, minimal. Ou alors, j'ai besoin moi, de faire de l'archivage. Typiquement, je vais devoir un standby ou de la sauvegarde en continu, donc là, je mets un wall level archive. Donc dans mes walls, je vais avoir un peu plus d'informations de façon à pouvoir garantir que je saurai rejouer tout ça sur mon serveur. Ensuite, on a rajouté la possibilité de dire attention, dans mes walls, maintenant, j'aurai une information qui transite. Et éventuellement, il va me revenir pour dire que mon serveur qui va recevoir mes transactions va pouvoir être en lecture en même temps. À ce moment, j'ai le wall level égal hot standby. Donc, on a augmenté. Avec Logical, on a rajouté un nouvel item, Logical. Et du coup, si au niveau de la config, j'ai mis Logical, alors je vais pouvoir avoir dans mes jeux de transactions, même généré au niveau de standby, tout le contenu qui m'intéresse.
Donc, ça veut dire que le master qui envoie vers le standby du haut peut lui envoyer un wall plus réduit, alors que celui du bas, il est obligé d'avoir un wall enrichi, en quelque sorte.
Oui.
Donc c'est peut-être que le master a qu'un seul niveau de rôle.
En fait, là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un, et ils ont tout le temps qu'un, mais ce qui se passe, c'est que les gens de transaction, même quand ils sont au niveau logical, ne contiennent pas vraiment l'information pure de dans quelle table je vais travailler, qu'est-ce qui se passe. Pour que ça marche, le plugin, il a besoin de faire des look-up pour savoir dans quelle table on est en train de travailler. Et ça, c'est une session par ce qu'on appelle l'OID, donc on a ce que c'est un object identifier. Comme on est dans une application physique pour les 200 bytes du premier niveau, les objects identifiers sont les mêmes. Donc, on peut faire le lookup localement sur son bail plutôt que d'aller faire sur primaire. Donc, ça me permet d'écrire le truc. Voilà.
Tout ça, du coup, c'est database par database. On peut choisir.
Alors, j'ai pas appuyé non plus là-dessus. Effectivement, database ou pas, tout ce qui est physique, on est sur la notion cluster. C'est l'intégralité des blocs. On ne peut pas distinguer table space, base de données, etc. Donc, on n'est pas là-dessus. On n'a pas d'aspect fragmenté. On ne peut pas fragmenter les choses. Ça pourrait être partie de développement futur, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Dans la réplication logique, on est réplication par base de données. Alors, même par table, on pourrait dire. Disons que par défaut, quand on installe IDR, on active la réplication pour la base de données sans que rien ne soit appliqué. Par contre, on va pouvoir ajouter des tables. On a ajouté en 9.4 un ordre aux header tables, enfin un header table, set replica identity, et on peut définir l'identité. Justement, est-ce qu'il est off, ou est-ce qu'on va faire une réplication par all new, ou est-ce qu'on a une réplication en suivant un index, ce genre de choses. Et j'ai parlé plus de l'autre. Donc du coup, on a vraiment une réplication qui est par table en MQTT. Au niveau de BDR, par défaut, on peut l'installer aussi dans une base de données, donc c'est toute la base de données qui est répliquée. Et là, on est plutôt dans la stratégie inverse, c'est que je vais demander à certaines tables de ne pas être répliquées si je ne les veux pas. Voilà. Mais on est vraiment beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus sur la couche. On est beaucoup plus proche de l'utilisation applicative de réplication quand on est en réplication logique, alors que l'application physique, on est sur une fiabilité, durabilité des données. Alors que l'application logique, on est sur un aspect d'optimisation. De gestion applicative. Historiquement, on fait des applications logiques depuis longtemps avec Sloney, donc ils ont parlé, et on fait des systèmes comme ça en cascade avec des outils du type PL Proxy pour faire de la distribution horizontale ou du PGQ pour faire des solutions verticales. Donc on a déjà des trousses à outils pour le faire. En fait, on s'est contenté de réussir à intégrer ça directement dans PostgreSQL et offrir cet outillage-là à un niveau plus bas et donc qui potentiellement est moins compliqué et qui est plus robuste. Et du coup, par tableau et par base, beaucoup plus pratique. Alors, la réplication directionnelle, du coup, ça donne ça. On a deux nodes, deux serveurs. On applique de manière croisée l'ensemble des transactions au niveau logique. Au niveau de la configuration de PostgreSQL, alors je n'ai pas du tout mis les options de configuration, ni les méthodes sur comment est-ce qu'on fait dans mes slides, mais tout à la fin, vous verrez, il y a une URL avec un quick start guide qui est très très bien fait, donc vous aurez tout ce que vous avez. Là, le multi-master, donc c'est l'application croisée, on va essayer d'appliquer les deux côtés. On va avoir à ce moment-là, dans BDR par défaut, des comportements de last update win, c'est-à-dire si j'ai un conflit sur un update, si je mets sur une application synchrone, par défaut, je vais considérer que c'est mon dernier update qui gagne, par exemple. On a comme ça deux, trois stratégies qui sont mises en place par défaut, mais ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a proposé une API pour pouvoir gérer nous-mêmes nos conflits. Donc en fait, on a une API pour dire si on est en insert versus insert, insert versus update, non pas update. Voilà, les différents conflits qu'on pouvait avoir entre update, delete, insert, entre les deux machines, donc les X machines mises en œuvre. Nous, on a mis en place quelques règles par défaut, et on peut là aussi, via des plugins, les surcharger ou même créer de nouvelles règles à la place pour gérer les données et l'application comme nous, on l'entend dans notre application. Parce que dans le multi-master, il ne faut pas du tout se voiler la face, il y a du multi-master sans que l'applicatif en bénéficie directement, c'est-à-dire sans qu'il en soit conscient, vous n'allez pas avoir intérêt à utiliser le multi-master. Donc, ça part du principe qu'on a un applicatif qui va utiliser ça. Si on compare avec le système web, ben, de plus en plus, de plusieurs années maintenant, on a des serveurs web qui sont avec des caches locaux dans différents pays, différents continents, de façon à distribuer les données au plus proche des utilisateurs pour que ça aille plus vite. Bon, ben, faire ça, on a des gens qui ont un service dédié qui savent faire ça. Quelque part, nous, si on fait des applications qui utilisent Multimaster, c'est pareil, il faut qu'elles sachent aller sur le bon master, celui qui est le plus intéressant pour le traitement qu'on doit effectuer. Donc, on a du coup ça, le BDR qui fonctionne. Le BDR, vous pouvez donc télécharger déjà la version de développement, la version de patch et l'extension, et en allez, un quart d'heure, 20 minutes, vous allez mettre en place le BDR entre deux machines sans trop de soucis. Alors, c'est vachement bien, mais les deux masters, comme ils sont sur une application logique, donc on va quand même les distinguer parce que potentiellement ils ont un petit peu de différence. On va sur des applications en général asynchrone, c'est-à-dire qu'on est sur des contextes où on parle en anglais de eventually consistent. Ça veut dire que tu seras consistant à un moment donné plus tard. Si jamais tu as tout le système, ça sera forcément répliqué, suffisamment consolidé pour que je sois entièrement consistant sur tous mes serveurs. Mais à tout moment, ce n'est pas consistant forcément. À tout moment, on n'est pas forcément application complète de l'ensemble des interactions des deux côtés. Donc, ça n'apporte pas de fiabilité des données en cas de crash d'une des deux machines. En cas de crash d'une des deux machines, ben, potentiellement, cette machine-là avait des transactions qu'elle avait rejouées, que je n'avais pas encore pris en compte dans mon autre flux de côté, donc potentiellement, j'ai perdu des transactions, donc potentiellement, ça ne va pas me suffire. Et puis surtout, dans ce cas multi-master, tel que c'est développé actuellement, il n'est pas tout le temps évident de pouvoir reshaper, de pouvoir rajouter et supprimer des notes comme ça de manière triviale. On n'est pas encore au niveau déploiement, ben, à ce niveau-là, ce qu'on pourrait avoir pour le modèle ou d'autres outils. Par contre, on a essayé de taper sur la robustesse. Sachant qu'on avait déjà des outils dans PostgreSQL pour garantir le fait qu'on avait une durabilité locale. Donc, ce qui se fait souvent, c'est quand même d'avoir un standby de chaque côté. Donc, on va avoir l'application bidirectionnelle logique entre deux masters, entre deux machines, et chacune de ces machines a son propre réplica local, enfin, ou pas loin, on va dire, de manière à ce que si elle crache, on puisse basculer sur autre, faire un failover ou un switchover, et reprendre le flux de réplication croisé là où il en était. Donc c'est vraiment, si vous êtes multi-master, vous prévoyez 4 machines. Si vous prévoyez moins de 4 machines, c'est pas la peine, vous aurez des problèmes. Voilà. Donc voilà, 4 machines, minimum. Sinon, potentiellement, vous allez vous retrouver dans un cas où vous allez perdre des données, vous perdre la qualité de service. Donc vous aurez fait un super système vachement intéressant, super beau sur la table et le tableau blanc, et au final après en production quand il aura planté à 4h du matin, vous serez là vous dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant. Donc prévoyez 4 machines. Si vous n'êtes pas décideur, dites aux autres au-dessus, attention, si on ne prend pas 4 machines, ça ira pas non plus. Donc il faut anticiper que quand on se met face à des enjeux et des besoins assez élevés, nécessairement derrière ça va avoir des coûts humains en gestion, économiques en achat de machines, etc. Il ne faut pas non plus se cacher là-dessus. Sachant que ça peut rester moindre que le fait d'avoir pris un gros monstre. Alors, du coup, quelques citations qu'on avait au niveau de l'application multi-master. Pour multi-master, l'utilisation principale et la demande principale qu'on a eu nous pour ce développement-là, je parle des demandes qu'on a eues parce que nous, forcément, on est tous développeurs, on est utilisateurs développeurs, on est donc un peu pris dans le flux de j'aimerais bien faire des trucs qui sont géniaux. Mais là, on avait vraiment des gens qui concrètement avaient des besoins. Et en fait, ce que nous avons créé, c'est la partition géographique. C'est-à-dire qu'effectivement, ben maintenant, les gens n'ont pas forcément envie, les gens ou les entreprises, ou qui que ce soit, avoir cette agrégation de données de différentes machines, s'assurer que les données qui étaient répliquées depuis A vers B, vers C, vers D, vers E, qui reviennent, que tout ça était correct, cohérent, c'était vraiment pas facile. Donc le souhait, c'était de se dire, je veux mettre en place un applicatif qui peut fonctionner au niveau mondial, sur l'ensemble de mes continents, avec des serveurs de proximité qui pourra réagir à mes lectures et écritures de façon efficace, mais qui me garantissent aussi que ce que j'ai fait moi localement en Europe, ce soit rejoué en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ou en Asie, ou en Afrique. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'est le multi-master. Donc on est dans un cadre multi-master qui, contrairement à ce qui existait auparavant, est prévu pour fonctionner à distance. Je dis à distance parce que, certes, les serveurs sont toujours un petit peu distants, mais souvent ils sont distants d'une baie. Bon, c'est pas très utile. Des fois ils sont distants depuis la France à la Maine, c'est déjà vachement plus pratique. Au niveau de l'accessibilité des données et performance des données, c'est pas très critique, ça va pas changer grand chose. La différence d'accès France-Allemagne, c'est pas énorme. Mais par contre, si je suis en France et que j'ai mon serveur qui est au fin fond de Taïwan ou je sais pas où, là, je vais avoir un peu plus de latence et du coup, ça peut faire ralentir mon application juste parce que moi, quand je suis en France et que je travaille en France, ça va moins vite que si j'étais à Taïwan. Et donc, ce système-là, il répond à ça. Il répond à la problématique de performance locale et de pérennité des données au niveau global. Voilà. Donc, ça, c'est le BDR. J'en ai mis que 4 parce que bon, je suis pas tellement en graphisme et qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais potentiellement vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Concrètement, on a fait jusqu'à 48 serveurs comme ça en master en anneau. Donc on est plus sur une application de type ring, parce qu'en fait, on a l'ensemble des nodes qui sont plus tout autour et qui tous vont communiquer entre eux et s'assurer de la fiabilité de leur application. Chaque node master pouvant lui avoir un ou plusieurs stand-by, fusible, logique, fait ce qu'il veut, mais potentiellement lui aussi pouvoir avoir sa propre graphe locale. Donc ça nous permet aussi de dire, bah, tiens, globalement, des fois dans certaines parties, je vais avoir un peu plus de serveurs stand-by parce que j'en ai plus besoin ici qu'ailleurs. Donc on avait cette souplesse-là et ça nous a apporté ça.
Quand tu dis en anneau, c'est tous les masters connaissent tous les autres masters
oui.
Ou chaque master connaît juste ses voisins?
Non, chaque master connaît tous les masters. Pardon, oui. Bon, voilà. Pour expliquer la confusion, on était parti sur le système entièrement anneau au début, on n'a pas réussi à faire entièrement. Vraiment la science.
Une question. Le fait de faire du multi-master, ça pose déjà le problème de la cohérence. Tu l'as souligné avant, il y a vraiment l'application dans son être consciente. Mais là, plus on augmente le nombre de masters, plus on va créer des cas compliqués. Qu'est-ce qui se passe en cas de split line? Qu'est-ce qui se passe quand deux masters ne soient plus, mais que chaque application qui utilise la base de données voit chacun son master, qu'elle voit en écriture, et qu'on diverge? Comment ça se passe? La plupart des systèmes de base de données, ils sont ou en share de signe, tu l'as souligné, ou alors ils partagent les données, mais c'est le même stock de données. Enfin, c'est le cas de RAC par exemple, c'est le cas d'autres bases qui ont fait ce genre de choix. Là, on a chacun son stock d'écriture, on peut avoir un split bind avec une divergence complète. Comment est-ce qu'on se réconcilie?
Alors, on se réconcilie parce qu'en fait, on a un service historique de problématiques de réplication qui sont faites, et donc elles sont accumulées, on peut du coup revenir dessus et les retraiter manuellement. Globalement, si on est parti vraiment très loin, on va être en BLF, tu vois. Voilà. Mais globalement, on essaie d'anticiper ça à la fois au niveau locatif, mais surtout, on a mis en place une politique précise sur qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas dans les conflits de réplication. Et à un moment, effectivement, si mes conflits de réplication ou l'instance de réplication est trop importante, il faut que j'arrête mes services localement plutôt que de continuer à tenter à travailler. Donc la notion de speedbrain et de comment je récupère, le comment je récupère, c'est de toute façon, à un moment, il y a un échange de jeux entre actions et il y aura une décision à faire, est-ce que c'est A ou B qui a gagné.
Ça veut dire qu'on est quand même en train de baiser quelque chose qui est assez important dans le monde de la base de données, c'est quand j'ai écrit, c'est fiable. Là, on est en train de dire que finalement, ça peut être redétricoté parce qu'il y a une solution de conflit qui va faire que ça va disparaître.
Alors, oui, sachant qu'on a deux. Globalement, c'est vrai. Du coup, effectivement, si on met en place une transaction dite serializable entre deux serveurs multi-master, le serializable, on l'a quand même perdu, en fait, on est sur du committee, globalement.
Du coup, bah, si c'est spécifié par l'application que telle transaction elle doit être d'abord répliquée et vérifiée que l'application a été faite, ça c'est l'applicatif qui choisit.
Voilà, en fait, c'est ça justement nos deux trousses de secours là-dessus, c'est d'une part la possibilité de dire je vais faire une transaction qui doit être synchrone, même dans ce contexte-là, qui en coûtait peut-être moins cher, mais qui a une garantie du coup qu'elle est bien répartie partout avant de la finir. C'est une solution, elle existe. Et l'autre solution, c'est d'utiliser par-dessus ça si on a besoin du two-phase commit. Donc, parce qu'il y a du two-phase commit, donc potentiellement, si on a besoin de garanties vraiment particulières sur certaines données, on peut le faire via du two-phase commit. mais j'en reviens vraiment à l'idée que de toute façon, les sources applicatives qui sont censées être très géolocalisées. En général, géolocalisées, ça peut être sur de, ça peut être, après, c'est juste sur des segments fonctionnels qu'on va répartir l'utilisation des masters, mais on va essayer d'avoir une cohérence de l'application par rapport aux raisonnées. C'est pour ça que si l'applicatif ne cherche pas à comprendre comment marche un raisonnée et qu'il y en a plusieurs, effectivement, on va être générateur de problèmes et on va favoriser les sur ce genre de problèmes.
Ouais, donc, ça en vient finalement à quelle est peut-être la suite de ta présentation, c'est dans quel cas c'est intéressant, dans quel cas on doit l'utiliser ou pas, parce que la transaction synchrone, il y a une illusion, c'est que synchrone, c'est le commit. Mais ça veut dire qu'un select for update sur le master 3, sur le master 2, on peut continuer à le faire. Donc si on prend les exemples courants d'usage de base de données, ça veut dire qu'on a raté beaucoup de possibilités. Donc, on imagine n'importe quoi, un site e-commerce, quoi que ce soit, dès qu'on a des accès de concurrence d'accession de la donnée en écriture, on va quand même rater toutes les possibilités de lock et de verrouillage.
Non, pas nécessairement. Alors, pour deux raisons. D'une part, parce que là, on a une application, on parle du rejet qui est synchrone et pas du commit. Et l'autre raison, c'est que dans PostgreSQL, les verrouillages type select for update provoquent de l'écriture. Et ils sont du coup transmissibles. On n'est pas obligé d'attendre le commit pour savoir les select for update qui vont se produire. On n'est pas encore à ce niveau-là d'intégration, mais c'est pas quelque chose qui serait impossible à faire.
D'accord, mais donc il y a un jour où vous prévoyez qu'un select for update commence déjà à ouvrir, ça revient...
En fait, la solution est plus... Stratégiquement, la solution est beaucoup plus simple, c'est qu'on se contente de dire l'application ne faut pas que tu as select for update. Si on a besoin de select for update, à ce niveau-là localement, alors on le garantit localement. Et on ne va pas le garantir au-delà de plusieurs serveurs. Il faut vraiment qu'il y ait intelligence entre les deux. Le gros utilisation, c'est tout ce qui auparavant correspondait à du database sharding. C'est applicable là-dedans, parce que si on a fait du database sharding, c'est-à-dire partiellement horizontal de base de données, où on essaie de segmenter par ensemble d'utilisateurs ou de données cohérentes et consistantes entre elles, alors on saura travailler sur chacune d'elles, globalement. Et l'autre cas, c'est... vraiment, le cas le plus évident, c'est la répartition géographique. L'autre cas, c'est une disponibilité de service quand même, c'est-à-dire de se dire, j'ai à avoir deux sites qui fonctionnent chacun plus ou moins de manière autonome. Je sais qu'à tout moment, si je perds un des deux sites, je peux basculer ensemble applicatif sur l'autre serveur qui reste. Alors, le temps va activement s'emballer dans d'autres choses. Donc, j'ai vous... Ce que vous dites est vrai. On n'a pas encore la réponse à tous les détails.
Non, mais de toute façon,
on essaie d'implémenter au fur et à mesure en contrôlant. En fait, jusqu'à présent, on est plutôt sûr. On va limiter la possibilité d'avoir certaines fonctionnalités pour justement éviter de tomber dans le cas où ça ne fonctionne pas. En disant, bah oui, on a moins de possibilités que si on décrit sur un serveur PostgreSQL tout seul. C'est vrai. On gagne sur d'autres points, on perd sur chacun.
Mais donc c'est pas du tout la même structure qui en fait
pas du rapport. Il y a des transcripts à rentrer. J'ai commencé. Du coup, je dis vite, un des gros intérêts, que ce soit UDR ou BDA, c'est de faire ça. C'est qu'en fait, la barre de version 9.4, on sait faire du coup des montées de version 9.4, vers 9.5, vers 9.6 qui sont sans zéro downtime. Auparavant, c'est quelque chose qui était soit via du Sony ou soit via du Nordis, c'était possible, on sait le faire déjà depuis historiquement, sauf que maintenant ça va être intégré. Donc maintenant, il sera possible de dire, je mets en place un master 9.4, je crée un serveur standby, soit à partir d'un PG DOM, d'un PG base backup, donc une recopie globale, soit je lui laisse me streamer toutes les modifications au fur et à mesure, mais on a aussi de démarrer un standby à partir d'une sauvegarde, d'instancier UDR dessus. Une fois qu'on a instancié UDR sur le standby, il dit un standby, bah tiens, je t'éteins, je te fais ta montée de version, en l'occurrence avec un outil qui s'appelle PGMBR qui fait une montée de version binaire du serveur, qui me permet de redémarrer en version 9.5, de faire ce qu'on appelle le catch-up, donc le rejeu du delta de fraction qu'on n'a pas joué parce qu'on était éteint et qu'on a changé de version, de reprendre, d'arriver dans un cas, on s'en UDR ou en BDR, bon, BDR sera 9.5, 9.6, en UDR, on va avoir entre le master 9.4 et 9.5 la même chose. À ce moment-là, on va attendre d'avoir tout bien rejoué et on va basculer l'applicatif sur un serveur 9.5. Il y a un moment, on va avoir une bascule de service. Il y a un moment, on considère que ça y est, on a tout ce qu'il nous fallait. On bascule sur une nouvelle machine et on peut du coup faire la boucle inverse. Ça, auparavant, c'était Sony où l'on dit, c'était donc un peu plus sourcilleux. Maintenant, ça va être de plus en plus simple. Ça, c'est un gros souhait. UDR, du coup, là, c'est déjà exploitable en 9.4. Donc ça, on ne peut pas en servir. J'ai pas fait énormément de capitalisation, mais c'était deux grands axes majeurs. C'est vrai que c'est la partition géographique avec le multimaster et les montées de version sans surtout faire parce que jusqu'à présent, montée de version pour SQL, c'est contraignant. Voilà, pour finir là-dessus, donc ça a été développé en grande partie par Seconde 40, en grande partie, c'est maintenu par nous. Au fur et à mesure, on touche tout dans le SQL parce qu'on ne maintient pas. On a des packages RPM et des Debian en cours de. Là, on est en train de parler de Debian. Mais de toute façon, le dépôt qui correspond, il est sur l'infra.sql. Vous y avez accès. dans le dépôt BDR, vous allez trouver les pages pour BDR, l'extension BDR et l'extension UDR. Une extension dans PostgreSQL, c'est un plugin, donc c'est un truc qu'on fait, on se met dans une base, on fait create extension ou extension, ça y est, c'est fait. Donc là, c'est livré avec. Et vous avez, si vous voulez tester la BDR par exemple, vous pouvez prendre le wiki sur BDR Quickstart et vous avez toutes les commandes à taper de A à Z pour mettre en place l'application standard en BDR. Vous pourrez tester ça si vous voulez. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à nous. Si vous avez des questions utilisateurs, vous pouvez aussi les envoyer sur PostgreSQL Général, qui est une des mailing lists de PostgreSQL, sachant que PostgreSQL fonctionne par mailing list, donc c'est le principal canal de communication. Voilà.
J'ai quelques questions.
Merci beaucoup.